Oasis interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouvel épisode dans lequel nous suivons tous les jours à 14h sur Campus Grenoble 90.8 la traversée de l'Asie pour faire se rejoindre Pékin à l'Inde, d'Ella Maillard et de Peter Fleming. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est encore une chouette histoire qui nous attend, une histoire de caravane, de voyage et toujours un peu de l'attente. Prenez un petit thé, mettez-vous sous une bonne vieille couverture et laissez-vous porter. On attaque. Chapitre 17. Monotonie. Le 23 avril, je me réveillais en entendant pour la dernière fois les frénétiques sonneries du lama officiant sous sa tente, ce qui nous faisait dire en plaisantant que son domestique ne lui répondait guère. Pour la dernière fois, dis-je, car les quatre chameaux commandés étaient devant notre porte. Ils ne nous étaient loués que pour 6 jours et nous coûtaient nos 3 dernières briques de thé, ainsi que le reste de notre dalienbu, cotonnade sombre coupée en carrés, dont les riches se font des chemises. Qu'allions-nous devenir sans ces commodités qui sont la seule petite monnaie du pays ? Cependant, j'étais heureuse puisque nous partirions ainsi d'ailleurs que les chercheurs d'or, ceux-ci à pied, poussant devant eux les yaks chargés de leur farine. En quittant l'oasis au Tamaris, je songeais encore au sort du pauvre Wawa, bravement venu à pied jusqu'ici. Quelques kilomètres à l'ouest de l'oasis, quel n'est pas notre étonnement de voir un petit mausolée de style turc se détacher du paysage désolé comme un cube de briques surmonté d'un dôme à demi défoncé. Et voici la légende que j'apprends au sujet de cette ruine de Nomangon Koto, dont la porte regarde le sud-est et la coupole est écroulée au nord-ouest. Au temps où le fameux Ghezar Khan faisait la guerre au Khan de Shiragol, ce dernier était aidé par un sorcier invincible dont les prières étaient toutes puissantes. Mais Damdin, le patron de Ghezar, inventa un stratagème. Il envoya 2 corbeaux divins se quereller sur le toit du sorcier de sorte que celui-ci, distrait, interrompit ses incantations. Ghezar put alors attaquer la chapelle et les briques qui tombèrent tuèrent le sorcier. Voyage de Tsibilkov à Lhasa. Notre piste était marquée dans une glaise marécageuse d'où les sabots de slalom se dégageaient avec un bruit de succion fort inquiétant. Ayant peur de m'embourber, je n'avançais que dans les pas d'un autre animal de la caravane et déplorais sans cesse que slalom n'eût pas des pieds palmés. Dans la plaine fangeuse, le sel scintillait en croûte sur le bord des flaques d'eau et je ramassais sans peine tout ce qu'il m'en fallait pour la cuisine. En terrain sec, le sentier zigzaguait entre d'innombrables mamelons, plus hauts que nous et protégés de l'érosion par un tamaris mort, ou bien l'ennui d'un sol nu s'étendait à perte de vue. Peter égaré et la Mongole muette. Ouverte à l'est sous le vent, notre tente laissait entrer chaque matin jusqu'à moi le premier rayon rouge du soleil. Le déjeuner terminé, Peter devançait la caravane à pied, l'arme sous le bras, à la recherche de gibier. Je ne le revoyais que 2 ou 3 heures plus tard. Et moi, marchant en tête de la colonne pour éviter la poussière, je reconnaissais sa trace sur la terre. Je lui enviais toutes les émotions que procure la chasse, et ma seule distraction était de le suivre à la piste. Un jour, sa trace caractéristique m'échappa. Sans doute était-il parti vers le nord, très marécageux, par un autre sentier. Après 2 heures de marche, comme de hautes dunes allaient cacher notre caravane, je m'inquiétais. Je fis grimper slalom sur la plus haute dune, et restait planté comme un signal jusqu'au moment où je vis mon compagnon surgir comme un point noir et traversait avec lenteur l'immensité plate pour me rejoindre. Il traînait un cuisseau d'antilope. L'animal entier eût été trop lourd, et ce soir-là, au bord de la boueuse rivière Touquetée, nous mangeâmes les plus exquises brochettes que j'ai jamais savourées. Nous devions atteindre bientôt la rivière Netchi, où il faudrait trouver de nouveaux chameaux. J'y pensais justement quand notre digne chamelier, dont j'avais remarqué le visage triste, raconta que sa femme était soudain devenue muette un an auparavant et que si nous la guérissions, ses chameaux et tout ce qu'il possédait seraient à notre disposition. Nous allions passer à quelques heures de sa yourte et pendant la nuit, il irait chercher la malheureuse pour me la montrer. Un espoir chimérique naissait en moi. Je n'avais aucun remède pour cette mongole, mais était-il impossible que cette pauvre femme, devenue muette en un instant par quelques effets nerveux, recouvra de même sa voix? Cette mongole, n'ayant jamais vu d'étranger, n'aurait-elle pas un acte de foi devant les médecines européennes? Et les guérisons par suggestion sont-elles autre chose? J'expliquais à Peter que tout dépendait de lui et de moi. Si nous étions persuadés du succès, nous inspirerions confiance à la mongole dès le premier regard, et l'absorption de n'importe lequel de nos médicaments pouvait gagner la partie. Hélas, quand la muette mit pied à terre, je compris la vanité de mon espoir. Elle avait aussi le bras droit paralysé. Sous sa peau de mouton, elle portait une blouse, et son corps était propre. Son visage impassible, aux traits réguliers, observait toute chose avec lenteur. Je lui donnais une pilule pour ne pas la décevoir. J'aurais voulu qu'elle pût lire dans mon regard la compassion qu'elle m'inspirait. Résigné, son mari se remit en route avec nous et sa femme repartit seule. Cependant, il faisait chaque jour plus chaud. Les coups de soleil mettaient le nez de Peter à mal et les Dungans protégeaient leurs lèvres inférieures au moyen d'un papier collé qui les faisait ressembler à des clowns. Lee portait en visière, engagée sous son calot, une illustration du détective en haut de forme nommé Victor de la Brigade Mondaine. Je m'étais laissé distancer par la caravane afin de prendre, sans descendre de cheval, le premier bain de soleil de l'année. L'odeur de ma peau cuite évoquait certains étés de ma vie, en même temps que les montagnes, dont un promontoire s'avançait dans la plaine, me rappelait la côte nord de Majorque et Port Solaire dont j'avais eu tant de peine à doubler l'entrée à la voile l'été dernier. Mais soudain, j'ai découvert un de nos chameaux qui avait dû se détacher de la caravane sans qu'on le vît. Tout en restant en selle, j'avance pour le prendre en remorque comme font les Mongols. Mais à l'instant où je vais m'emparer de sa corde, Slalom, effrayé, se cabre, rue après m'avoir mise par terre, et s'enfuit. J'ai cette fois deux bêtes à capturer. Par bonheur, Lee était resté en arrière chez une mongole souriante qui soignait des agneaux, et le voilà qui survient pour me tirer d'embarras. Mais nous n'étions pas au bout de nos peines. Ce jour-là, Peter avait tué un lièvre, et, assis au bord de la piste en fumant une pipe, il attendait comme de coutume que son poney le rattrape. À peine était-il en selle qu'il se retrouve par terre, tombé sur la tête, Grease ayant rué à la vue du lièvre mort. Et longtemps, Lee et moi dûmes donner la chasse au diabolique poney noir. Sauf ces rares événements, la monotonie du voyage était extrême. Vers le sud, les grandes montagnes ne laissèrent entrevoir qu'à deux reprises leur lointain sommet neigeux. Il y avait eu par terre des fleurs ou des cailloux. Je les aurais collectionnés si elles avaient été là, à seule fin d'occuper mes journées. Goromu. Dans l'île de la rivière Netchi, notre camp est des plus agréables, car, pour une fois, l'eau courante est à domicile. Les Dungans, nos voisins, resteront ici pour prospecter la région. Leur chef m'appelle toujours par mon nom chinois, Ma Yan Gan, tandis que les autres parlent de moi comme de la française. Quant à Peter, il était appelé Moussé par Li, comme le sont en Chine tous les missionnaires. Eh bien, j'ai le regret de le dire, Moussé ne jugea pas utile de suivre mon exemple en se baignant dans une vasque naturelle proche de notre tente. Et tout au plus, daigne-t-il me permettre d'y laver sa chemise. Ayant été au renseignement, Li annonce que nos nouveaux chameaux ne seront là que dans 3 jours. Je décide aussitôt de mettre cet arrêt à profit. Le Netchi sort des montagnes du sud et l'une des pistes allant à Lhasa s'enfonce dans sa vallée. Depuis que j'avance dans les solitudes plates du Tsedam, ces montagnes m'appellent, mais en vain, car Peter ne veut pas entendre parler de perdre 8 jours pour les explorer. Or, en 3, avec mon sac de montagne sur le dos, j'ai le temps de remonter quelque peu cette vallée. C'est le moyen de redevenir enfin mon propre maître, de ne plus être uniquement un fragment de caravane. Peter, sans doute, prétend galamment que je suis très utile, mais il ne comprend pas combien j'aspire à secouer l'inertie qui envahit depuis qu'il est à mes côtés. Plus d'initiative, plus de responsabilité. Je fais partie d'un groupe et mon esprit de décision s'émousse. Mais rien à faire. Peter revient de la chasse, heureux d'avoir passé une bonne journée tandis que j'ai dû garder le camp en l'absence de Li, et déclare qu'il veut hâter le départ. Il affectionne une douteuse théorie sur la chance qu'il reprend avec quelques variantes à chacun de nos arrêts. Selon lui, il est toujours raisonnable d'escompter une faveur du sort, car étant donné les nombreuses contrariétés que nous avons eues à surmonter depuis notre départ, les bonnes chances ne peuvent manquer de s'accumuler. Peter vient de voir un lama sous une tente où, fait peu banal, il y avait aussi une montre. On lui a dit que le prince de Tejinar, nommé Dorji Teji, était parti pour Gas. Or, Gascol, c'est la dernière oasis à l'ouest du Tsedam sur la piste qui mène au Turkestan. Il y a donc un espoir pour que les communications soient sur le point de reprendre avec la grande province voisine, but de notre voyage. Amursain. Le lendemain, nous rendons visite à la belle au bois dormant, rieuse mongole que Peter avait découvert endormie au soleil, près de ses moutons. En arrivant devant une yourte, au Tsedam, les Mongols se saluent en disant « Amursain », ce qui équivaut à « bonne chance »,« bénédiction sur ton troupeau ». Puis, on s'assied à la turque, par terre, à la gauche du foyer central. C'est le secteur noble de l'habitation où se trouve, contre la paroi, l'étagère supportant le livre saint et les petites coupes d'offrandes pleines de beurre ou d'eau. C'est le seul meuble qui différencie la yourte bouddhique mongole de la yourte kirdzig musulmane que je connais bien. Sur ma demande, la belle mongole me montre ses bijoux grossiers, bagues et pendants d'oreilles contenus dans un coffret. Elle est veuve, de conditions aisées, car elle possède du sucre candi qu'elle pile pour nous et des biscuits de Sining. En bonne hôtesse, elle nous sert une énorme ration de tsamba, mais son beurre, vieux de plusieurs mois et conservé dans un estomac de mouton, ne me plaît guère. Sa couleur évoque celle d'une méduse échouée sur la plage et son goût rappelle celui d'un mauvais roquefort. Peter prétend ne rien sentir, mais pour une fois, cette tsamba que nous aimons tant a de la peine à descendre. Faux départ. Contrairement à mes prévisions 2 jours plus tard, nous repartons déjà vers l'ouest à la suite de 2 chameaux et d'un jeune garçon. Notre 3e animal nous attend quelque part. Peter triomphe modestement. Cette fois, nous sommes sûrs d'atteindre Arakchatu, où doit se trouver Boroditchin. Mais 2 heures plus tard, nos bagages sont déposés près d'une yourte solitaire. Et là, une comédie se déroule selon les données classiques. Le garçon part pour chercher le 3e chameau tout près d'ici. La nuit passe. Le lendemain, une femme vient dire que la tsamba et les habits du chamelier ne sont pas prêts. À 11h, on apprend que les chameaux sont égarés et Peter en est à sa 102e patience de cartes. Entre-temps, mon compagnon s'est découvert un penchant pour le commerce et vient de troquer notre seul verre contre deux carrés de satinette rose qu'il destine aux Mongols qui nous ont vendu du chorma, nom donné à des miettes blanches et fades faites avec du lait et du beurre séché. Enfin, sous le soleil de midi, un vieux Mongol que j'appelle le Matou apparaît avec son sac de tsamba. Quelques poils de moustache tombent de chaque côté de sa bouche. Comme l'imagerie moderne se figure les Huns, ses yeux au coin relevé se ferment à demi, éblouis par la lumière du jour. Le torse nu, il récite quelques phrases sacramentelles tout en promenant sous le nez de ses chameaux, par un rite de bon augure, les fumées aromatiques de brindilles de pin. Tout fier pendant ce temps, Lee s'occupe de sa dernière acquisition. Une jeune chamelle pleine, qu'on ne peut regarder sans rire, tant elle a les jambes cagneuses. Pendant les 6 jours qui suivirent, nous traversâmes une contrée souvent désertique. Ma seule distraction était d'observer l'ombre de slalom, qui au cours de la matinée passait avec lenteur de la gauche à la droite de sa tête, car nous faisions route, comme disent les marins, au nord de l'ouest. Nous marchions presque toute la journée, et sans doute étais-je fatiguée, car je me souviens avoir eu peine à supporter le bavardage interminable et les phrases kilométriques de notre brave Lee, un jour qu'il prodiguait ses confidences à un Mongol auquel j'aurais volontiers jeté un sort. Un soir, le Matou, quoiqu'il nous eût annoncé le contraire, fut incapable de trouver un point d'eau. Après avoir erré jusqu'à la nuit tombante, nous dûmes camper sans thé, innovant alors une samba à base de cognac. Le résultat rappelait tout à fait un mauvais baba au rhum. Un autre jour, ouvrant le ventre d'une canne, j'y découvris bien aligné 6 jaunes d'œufs de grandeur décroissante, et je crois bien qu'il n'y a jamais eu d'œufs plus frais et mieux savourés que cela. Le même jour, nous découvrîmes que nous avions passé les fêtes de Pâques dans l'oasis du Tamaris. Chaque matin, les 2 premières heures de chevauchée étaient belles, grâce au soleil jouant avec les ombres profondes de la montagne. Mais bientôt, la lumière blanchissait et tout devenait ennuyeux. C'est alors que j'avais recours à d'inoffensifs passe-temps. Laissant la bride sur le cou de mon poney, je me faisais les ongles minutieusement, puis je démêlais mes cheveux. Travail fort long. Mais il me fallait tuer 1 heure encore. J'avais quelques idées que je cherchais à développer. Par exemple, la perte de temps que représentait notre voyage, ou qui d'un Mongol ou d'un ouvrier parisien avait la vie la plus enviable, ou la valeur relative de nos civilisations. Mais j'étais incapable de raisonner, ma tête fonctionnait mal, et cette constatation m'attristait. Je me disais qu'un être intelligent devait pouvoir utiliser son cerveau haute ses dames, aussi bien que chez lui ou qu'en prison. Combien de fois en Europe n'avais-je pas maudit la vie bousculée qui m'empêchait de penser? Et maintenant, seules les préoccupations de la vie matérielle comptaient pour moi. Enfin, approchait le moment attendu du 10h. De ma poche, je sortais une boulette de tsamba sauvée du déjeuner et je la faisais durer le plus longtemps possible. Peter se rapprochait pour voir si j'avais emporté quelques raisins secs pour lui. Cela ne suffisait guère à son estomac, et vers 11h venait la journalière discussion de notre repas du soir. Peter avait une passion pour le curry, et si je lui en promettais, j'obtenais de lui ce que je voulais. Qu'il décloue des caisses, qu'il pile du poivre, qu'il me prête sa tringle à fusil pour mes brochettes d'antilope. Mais d'avoir décidé le menu n'endormait toujours pas la faim, et nous évoquions alors la saveur des repas commandés jadis dans tel ou tel restaurant. Les plats délicats cédaient vite le pas devant les souvenirs de nos plus énormes gloutonneries en France. Les Hike Teas de Peter Écolier, avec des montagnes de saucisses rôties et de purée de pommes de terre, où apparaissait pour finir un gâteau au chocolat, comme il n'en existe qu'à Eton. Moi, je décrivais les platés de rösti avec œufs au lard, dévorés dans les auberges suisses après une course à ski. Dans ces moments-là, Slalom éveillait toute ma sympathie. Il avait faim lui aussi, car sans cesse, il essayait d'arracher une herbe sèche au passage. Quel supplice pour lui de fouler son repas aux pieds, sans que je lui laisse le temps d'assouvir son appétit. Enfin venait la halte de milieu de la journée, au cours de laquelle nous faisions le thé ou cacao à la tsamba. Parfois, je pouvais me distraire en plumant une noix cendrée ou un canard mort doré, et le soir, après un ou deux jours de solitude, lorsque j'apercevais du haut de ma selle la bosse d'un chameau au-dessus d'un buisson ou un lièvre dans un fourré, j'avais l'impression de retrouver un pays civilisé. Nous approchons. Un jour, alors que Lee pétrissait la farine pour faire notre mine, un groupe de Mongols bien mis nous rendit visite. Au milieu des sourires que nous échangions, l'un d'eux admirait ma poêle à frire, prononça le mot russe « karakcho » bien, il ne pouvait l'avoir appris ici, au fond du Tsedam, que de notre ami Boroditchin, le seul étranger qui s'y trouva. Nous nous approchions de notre but. Il nous restait encore à traverser une plaine de terre grise, plate et nue comme la mer. Ce fut une matinée sans rides où je me sentais en harmonie avec le monde et me demandais ce qu'il peut y avoir de si satisfaisant dans une immensité parfaitement vide. Le lendemain, au milieu d'un îlot de végétation, je distingue deux chameaux curieusement déguisés en dames à jupons. En approchant, je vois qu'un sac pend jusqu'à terre cousu à la laine de leur bosse, de manière à voiler leur arrière-train. Lee nous apprend que ces chamelles sont en convalescence parce qu'elles viennent d'avoir des wawas. Nous avons gagné, maintenant, des pâturages où courent parmi les moutons des canards sauvages, des lièvres et des cigognes, à tel point que Peter ne chasse plus parce que ce n'est pas du sport. Un berger nous apprend que vint Lee plus à l'ouest, à Karatchatou, nous trouverons la yourte de notre russe et que nous sommes ici à Hadjar, sur les terres du prince de Tsedjinar. Dans la plaine coupée de pistes nombreuses, je vois des groupes de yourtes où la trace qu'elles ont laissée, grands cercles de terre battue dont les alentours sont noircis par une épaisse couche de crottes de chèvre. Des chiens se répondent. Pour dissimuler l'anxiété qui nous gagne à mesure que nous approchons d'un des instants capitaux de notre voyage, Peter plaisante. Il prétend qu'il va enfin faire connaissance de la blonde comtesse russe couverte de bijoux que les agents de la 3e internationale n'auront pas manqué d'envoyer à sa rencontre dans la capitale du Tsedam. Notre sort dépend de ce que va nous dire Boroditchin, que nous verrons encore aujourd'hui. Il nous faut affirmer, avant qu'il ait le temps de nous en dissuader, que nous continuerons coûte que coûte. Mais sera-t-il à la hauteur? Comprendra-t-il notre désir de gagner le Xinjiang? D'autre part, nous nous demandons, pour le cas où la guerre ferait toujours rage du côté de Tchétchène, s'il serait absolument fou d'essayer une traversée du Tibet, plutôt que de reparcourir le lugubre Tsedam. Nous touchons au but de la première partie de notre voyage. La yourte russe de Tsedjinar qui, vue de Pékin, semblait à Smig la chose du monde la plus simple à atteindre. Au-delà, c'est inconnu. Mais des échos de la situation politique au Turkestan ont dû filtrer jusqu'ici. Nous allons enfin savoir. Et bien voilà, c'est un chapitre un peu court, mais pour finir la première partie de ce voyage. La deuxième partie s'intitulant l'imprévu. On recommence dès demain. On suit Ella Maillard et Peter Fleming qui partent à la rencontre, cette fois-ci, de Boroditchin qu'ils ont enfin trouvé au milieu du Tsedan. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous faites des petits smoothies avec des petits fruits. J'ai vu hier que les fraises Garrigate étaient sorties et ça fait du bien. Ça vient de France, c'est aussi pour soutenir les producteurs français, c'est important, vu la crise qu'on est en train de traverser, essayez de manger au plus de tout ce qui vient de France. Ça vient de moins loin. Et si vous allez en magasin bio, c'est pas si cher que ça. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain à 14h et j'espère que vous appréciez ces petits moments de vie d'Ella Maillard et de Peter Fleming dans Oasis Interdite. Un voyage qui a été réalisé en 1935 pour faire se rejoindre Pékin et les Indes. Bon après-midi et je vous laisse avec Caroline de Congoutte. Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8. Oasis Interdite par Ella Maillard. Un voyage loin, très loin du confinement.